Ce matin, les sentiers bucoliques vont nous amener. Il est littéraire. D'abord, bonjour à nos auditeurs.
Absolument.
Bonjour à Christian à la console technique et bonjour à mon invité qui va se présenter tout à l'heure et qui nous a amené un livre, puisque je disais que les sentiers sont littéraires, un livre qui est très très intéressant et qui va sûrement vous interpeller si vous êtes dans les conditions de ce que justement nous allons déployer dans votre famille, autour de vous et autour d'amis. Si vous avez, vous pouvez le conseiller, il est très très utile. Il s'appelle « Études et handicap, construire son parcours scolaire et universitaire ». Alors, comment choisir son orientation et construire son avenir quand on est en situation de handicap ou que l'on a besoin d'aménagement ? Ce guide, clair et concret, propose une véritable boîte à outils pour accompagner les élèves et les étudiants, ainsi que leurs familles, à la fin du collège, jusqu'aux études supérieures. Bonjour madame.
Bonjour.
Si vous voulez bien vous présenter, puisque c'est vous qui avez fait le livre.
Alors, je suis Claude-Hélène Ivard, de profession, je suis journaliste. Mais dans le cadre de ce livre, je suis surtout maman de deux enfants, de deux grands adolescents et jeunes adultes en situation de handicap invisible, dont un est en BTS et l'autre est en classe de première générale.
Alors bien sûr, ce livre, nous allons l'effeuiller, mais il faudrait peut-être que vous reveniez pour nous le détailler, parce qu'il est plein de bons conseils. Ça serait dommage de ne pas pouvoir les dire tous avec le temps qui nous est imparti. Donc, nous vous ouvrons porte ouverte pour une autre fois. Alors, on va préparer la sortie du collège, si vous voulez bien.
Oui, tout à fait. Donc, le premier objectif, c'est que les enfants, les jeunes en situation de handicap, puissent choisir l'orientation. Donc, ça, je suis partie à partir de la classe de 3e, qui correspond à une phase d'orientation. Donc, le point de départ que j'évoque, c'est les aménagements, les premiers aménagements pour le brevet des collèges, le diplôme national du brevet. Donc, certains élèves ont un dossier auprès de la MDPH et nécessitent des aménagements. Et souvent, c'est simplement du tiers-temps où il leur faut un ordinateur. Donc, il y a des dossiers à monter. Le message que je veux faire passer, c'est quand les aménagements sont mis en place, les enfants peuvent réussir. Et une des règles, c'est quand même l'anticipation dans ce genre de dossier. Et le tiers-temps, c'est-à-dire un tiers de temps supplémentaire pour faire les épreuves, est le premier aménagement, le plus courant.
Alors,
un exemple.
Oui, vous avez deux formes. Vous avez la technologie ou le lycée général.
Oui. Donc après, le jeune, avec sa famille, après la troisième, il peut choisir différentes orientations. Moi, j'insiste sur le point qu'il doit choisir en fonction de ce qu'il veut faire. Voilà, ça c'est un message très important. Moi, si j'ai fait ce guide, on avait dit petit à moi, mais ton fils, il n'ira jamais en lycée général. Et au fil des années, on a construit les aménagements. Alors, il a du tiers-temps, il a un ordinateur, il a un AESH. Et grâce à ces aménagements, il a progressé. Et les aménagements qu'il avait en classe ont été les mêmes pour le diplôme du brevet des collèges. Et ça lui a permis de réussir son épreuve. Il avait un tiers-temps supplémentaire sur toutes les épreuves. Et il a bien réussi son brevet des collèges et il avait demandé une classe à un lycée général parce que c'était son souhait. Et si ça avait été le souhait d'un lycée technologique, il aurait pu demander un lycée technologique. Mais lui voulait faire une seconde générale.
Donc vous offrez deux façons d'aborder le problème, si vous pouvez dire, avec ce choix. Dans les classes de première et de terminale, on peut-être les enseignements communs sont dispensés à tous les élèves qui sont les suivants avec des horaires, bien sûr, le français, 4 heures, l'histoire-géographie, les langues vivantes, l'éducation physique et sportive, 2 heures, enseignement moral et civique, 18 heures annuel. Et puis, enseignement, bien sûr, spécifique, 2 heures. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même enseignement de mathématiques pour les élèves n'ayant pas choisi l'enseignement spécialisé en mathématiques. Donc, vous avez déjà un panel fort intéressant.
Et le jeune, s'il le souhaite, peut aussi choisir la voie professionnelle. Sur la partie pratique, il peut avoir d'autres types d'aménagements. Mais moi, j'insiste bien, c'est que c'est lui qui doit choisir. En fait, son handicap ou sa particularité ne doit pas être un frein à son choix d'orientation. Et c'est le message que je veux faire passer. Et ce choix d'orientation doit être co-construit avec le jeune, la famille et l'éducation nationale. Ce n'est pas un guide contre les enseignants, je voudrais insister dessus. Oui. Ça doit être travaillé entre une collaboration de ces trois parties et le médico-social, puisqu'il y a certains de ces élèves qui sont accompagnés par des structures médico-sociales. Moi, j'ai un de mes enfants qui est accompagné par une structure médico-sociale.
Alors là, on a survolé la partie générale. Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir dans la voie technologique ?
La technologie...
Le choix de l'élève, bien sûr. Hein, toujours.
En fait, un enfant en situation de handicap ou à besoin particulier, il y a les deux, doit choisir ce qu'il veut. Et la voie technologique, c'est pareil, ça peut être un tiers-temps, ça peut être un ordinateur, ça peut être un accompagnement d'élèves en situation de handicap, donc AESH, pour l'aider à reformuler des consignes, ça c'est les cas concrets, reformulation de consignes. Ça peut être un accompagnant qui prend des notes pour lui, ça c'est un exemple. Par exemple, si le jeune est malvoyant, ça peut être une prise de notes, ou ça peut être un lecteur-scripteur. En fait, le panel des aménagements, il est très large.
Donc, dans les offres que vous offrez, il y a 8 services de baccalauréat technologique, il en existe 8. Si on sait technologie pour la santé et le social, ça dépend ce que veut faire l'enfant. Hein.
C'est ça, j'insiste bien dessus.
Mais il y a quand même beaucoup de choix.
Ouais, en fait, le choix, il doit être commun à tous les jeunes. Pour lui, il doit avoir la même possibilité de choisir. Souvent, on associe la différence ou le handicap à quelqu'un qui n'est pas capable de réussir.
Bien, alors il y a d'autres choses aussi. Je vais les nommer parce que je les trouve tous très intéressants pour l'orientation des enfants. Il y a l'agronomie et du vivant. Alors, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, préparées bien sûr en enseignement agricole. La science et technologie du design et des arts appliqués, ce qui est une chose aussi intéressante. Science et technologie de l'industrie du développement durable. Science et technologie de l'hôtellerie et de la restauration. Science et technologie de laboratoire. Science et technologie du management et de la gestion. Science et technologie du théâtre, de la musique et de la danse. Vous voyez qu'il y a un grand... Ils ont vraiment de quoi faire un choix intéressant. Si vous pouvez un petit peu éclairer nos auditeurs sur justement ce grand panel, parce qu'un enfant ne veut pas forcément faire que des choses de mémoire, il veut aussi peut-être travailler de ses mains malgré son handicap.
En fait, le jeune en situation de handicap, il a les mêmes choix que tous les jeunes. Voilà, moi, j'insiste sur ce message. Donc, il a le choix entre l'enseignement général que l'on connaît mieux, l'enseignement technologique dont vous avez cité les 8 options, et le choix professionnel. Et je veux revenir 2 minutes sur la voie professionnelle qui, aujourd'hui, permet aussi des poursuites d'études vers l'enseignement supérieur. Il y a quand même une possibilité pour un CAP d'avoir un aménagement et de le faire en une année supplémentaire pour quelqu'un qui pourrait être en grande difficulté. C'est ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage adapté. En fait, l'aménagement des parcours de formation, que ce soit en voie générale, en voie technologique ou en voie professionnelle, il peut être adapté. On est dans l'individualisation des parcours. Et c'est ce que marque la loi de 2005, qui est la grande loi sur le handicap. En fait, cette loi, elle met dans le marbre que les parcours de jeunes peuvent être individualisés. Voilà, c'est aussi un de ces aspects qu'il faut retenir.
Qu'il faut retenir et développer, bien sûr. C'est le choix de l'enfant qui définit tout, en fait.
Voilà. Et moi, je dis, il ne doit rien s'interdire. Je dis dans la préface, ouvrir le champ des possibles. Et on est vraiment là-dessus, quoi. Ouvrir le champ des possibles. Après, il faut que les aménagements, ils soient, ils soient adéquats. Bon, moi, je prends un exemple que je connais bien. Moi, mes enfants, ils ont pu progresser parce qu'ils avaient, au fil des années... Alors, obtenir les aménagements, c'est souvent des combats administratifs. Mais ils ont pu progresser et avancer parce que les aménagements sont adéquats. Ils ont été mis en place au fil des années parce que ben, ça, certains professeurs qui ont accepté le tiers-temps. Alors, le tiers-temps, c'est... Il y a deux choses. Soit on accorde un tiers de temps supplémentaire, soit on réduit les exercices d'un tiers. Et pour ces enfants-là ou ces jeunes-là, ce n'est pas des cadeaux qu'on leur fait. C'est parce qu'ils ont un mode de fonctionnement différent. On a dit à mon fils, « Ah oui, mais ce n'est pas juste un tiers-temps supplémentaire. » Ben non, en fait, parce qu'il en a besoin. Et ce n'est pas un cadeau qu'on lui fait. Sur l'épreuve de français du diplôme du brevet, l'épreuve de français, c'est 4 heures. Ça pouvait, un tiers-temps supplémentaire, ça fait 5 heures et quart. Donc, il faut accepter son temps d'épreuve, c'est 5 heures et quart. C'est très long pour un jeune de 15 ans. Voilà, il a pu réussir son français parce qu'il a pu se relire. C'est pas un passe-droit.
Son fonctionnement est différent.
Voilà, son fonctionnement est différent.
Et ça, il faut absolument l'accepter.
On peut prendre quelqu'un qui est malvoyant aussi, où là, ça se voit plus. Par exemple, ça peut être pour un jeune malvoyant, ben, lui, il va avoir les aménagements de diplôme en braille ou soit en caractère très grossi. Gros. Voilà, en fonction de son degré de vision. Et ce qu'on a du mal à admettre, c'est en fait les aménagements, ils sont à la carte. Après, c'est un dossier à remplir, que ce soit pour le brevet ou pour le bac. C'est un dossier à remplir, il faut que ça soit validé par l'académie. Enfin, ça ne se fait pas comme ça, quoi.
Et c'est lorsque vous vous regroupez tous ensemble que vous prenez les décisions par rapport à sa demande.
Alors, en fait, les décisions, elle est construite entre le jeune,
le jeune,
sa famille, et souvent...
Le socio-médical.
Alors, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas forcément. Et il y a quelqu'un qui a un rôle clé dans l'éducation nationale, mais ils ont souvent beaucoup de dossiers de plus en plus. C'est l'enseignant référent qui peut avoir un rôle clé, qui est un représentant de l'éducation nationale.
Bien, alors nous allons faire une petite pause musicale et après nous allons nous retrouver parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à nous dire. On va prendre un peu plus de temps, on va se tourner vers Christian et il va nous faire un peu de musique.
Alors on va écouter Grégoire, Mon handicap, c'est votre premier choix.
Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd, qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux, qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal, qui me fait mal.
Vous écoutez bien les Sentiers Bucoliques sur Liberté FM. Aujourd'hui, nous parlons de handicap et des études avec Claude-Hélène Ivard, qui vient de sortir un livre justement qui s'intitule « Études et handicap ». Alors moi j'ai une question, avant de pouvoir mettre toute cette machine en œuvre, il faut qu'il y ait une reconnaissance médicale du handicap, non ?
Oui, tout à fait. En fait, tous les parents et les familles, il faut une reconnaissance médicale et souvent la phase de diagnostic est très très longue, surtout dans les départements ruraux. Nous, dans notre cas, on a mis plus de 5 ans à avoir un diagnostic posé. Alors heureusement, on avait mis en place les soins. C'est une vague machine administrative, il faut une reconnaissance auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap, MDPH, qui est un service du conseil départemental. Et il y a beaucoup d'administratifs pour accéder aux aménagements et souvent c'est la plaie des familles.
D'accord, l'attestation médicale ne suffit pas, il faut les...
En fait, il faut souvent, dans le cas d'un handicap invisible, qui est ce qu'on appelle handicap invisible, qui ne se voit pas, parce que quelqu'un qui est en fauteuil, ça se voit, quelqu'un qui est malvoyant, ça se voit, il faut renouveler le dossier très, très, très régulièrement. Voilà. Et nous sommes dans un département en errance médicale. Et nous, dans notre cas, il y a eu de l'errance médicale.
D'accord. Vous pouvez nous expliquer un peu de quel type de handicap ?
Alors, moi, mes deux enfants sont... Alors, ils sont ce qu'on appelle la famille des troubles neurodéveloppement. Donc, ils sont 10. Voilà. Donc, voilà, je vais prendre l'exemple de Flavien. Donc, Flavien a 16 ans aujourd'hui. Flavien, il est très dysgraphique. Donc, il n'a pas automatisé tout un tas de gestes. Et notamment, il n'écrit pas. Il est incapable de l'écriture manuscrite, ça lui est très très difficile. Et on est passé très tôt à l'ordinateur. Mais il a fallu se battre pour qu'on passe à l'ordinateur. Il est passé en CM1 à l'ordinateur. C'est-à-dire que lui, sa copie, elle est numérique. Par contre, c'est un bon lecteur. Il a appris très tard à lire. Enfin, très tard, au début de CE2. Petit, on a eu les premiers signes parce qu'il ne parlait pas à 4 ans. En plus, il est de début d'année. Et à la maternelle, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que c'est un enfant qui ne parlait pas. Donc, retard de langage. Et puis, il y a des choses dans la vie courante. Il ne savait pas s'habiller tardivement. Il y avait des gestes. Donc, il y a de la dysgraphie aussi. Et il a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, ce qu'on appelle TDA. H ou avec ou sans le H. Et en fait, Flavien déclenche le diagnostic de son frère aîné, qui lui est indifférent, qui est au potentiel, parce que ce n'est pas une question d'intelligence, au potentiel intellectuel, qui est dysgraphique, mais beaucoup moins que son frère. Et ils ont tous les deux un TDA. Moi, je dis simplement aujourd'hui, leur cerveau fonctionne différemment.
Et ça vous a demandé beaucoup de temps pour obtenir, après l'accord de la NDPH,
Moi, ce qui énerve les familles, c'est dans les cas d'un handicap où ça ne se voit pas, il peut être évolutif. Donc, j'avais, à un moment donné, j'ai eu l'impression de faire les dossiers quasiment tous les ans entre les deux. Là, ça s'est un petit peu amélioré. On est plus un dossier par cycle scolaire. cycle scolaire. Voilà, on est passé à tous les deux, trois ans. Et c'est vrai qu'avec les accompagnements, les choses s'améliorent parce que petit, il avait de l'ergothérapie, il avait de l'orthophonie, énormément de rendez-vous petit. Et heureusement pour nous, on a commencé l'orthophonie avant, grâce au médecin généraliste, avant la reconnaissance MDPH, parce que sinon on aurait perdu beaucoup, beaucoup de temps.
Beaucoup de temps, tout à fait.
Parce que plus la prise en charge elle est tôt, ouais, plus les aménagements ils peuvent être mis en place, et plus l'enfant il progresse. En fait, c'est des adaptations permanentes. Et voilà, moi je sais que, par exemple, Flavien, il a une mémoire visuelle extraordinaire. Il n'avait pas de repère de l'espace petit. Mais il va dans un endroit, comme il a une mémoire photographique, et ben, il y a des compensations qui se mettent en place. Et aujourd'hui, il va très bien. Et c'est des enfants qui ont tendance à perdre confiance en eux, peuvent être plus sujets que les autres à faire des dépressions et à être harcelés. Voilà, aussi.
Aussi, oui, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie, hormis parce que vous avez le vécu chez vous, d'écrire votre livre pour partager et conseiller, justement, parce que c'est un livre très, très, très intéressant.
Alors, en fait, l'histoire du guide, il est né. Alors, je collaborais de temps en temps aux plusieurs guides d'enseignement supérieur pour l'éditeur Stutirama. Et c'est au cours d'une conversation, voilà, avec l'éditeur qui a dit, ben oui, mais moi aussi, je suis concernée par le handicap invisible. Et dit, mais est-ce qu'on pourrait faire un guide? Alors, d'abord, on a dit, eh ben, il n'existe pas le guide. On a regardé. En fait, il y a plein d'associations qui font un boulot formidable, mais il n'y avait pas de lieu, d'ouvrage qui rassemblait. On a conçu le guide comme une boîte à outils. Une boîte à outils.
Oui, alors,
elle n'est pas exhaustive. Parce que, en fait, les 5 premiers mois du projet, j'ai fait un vrai travail d'enquête journalistique. Il existe quoi? Est-ce qu'il y a des chiffres? Alors, on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes en situation de handicap qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Et aujourd'hui, cette génération, elle arrive au lycée, elle arrive aux études supérieures, il y en a plus. Mais à un moment donné du parcours scolaire, eh bien, ils se heurtent à de plus pouvoir avancer. Donc, il fallait quelque chose pour que les familles, en fait, elles se disent, un, c'est possible, et deux, mon fils ou ma fille, elle peut réussir. Quand il n'y a pas de déficience intellectuelle, ils peuvent réussir. Alors après, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, mais ils peuvent quand même faire des choses. Voilà.
Alors, bien sûr, vous avez orné de témoignages, oui. Et ça aide beaucoup à la compréhension, vos témoignages, parce que dans les familles, il y a multitude de formes, justement, de handicap. Et on ne s'imagine pas, parce que quand on a un enfant handicapé, on ne pense pas, tiens, mais l'autre il pourrait peut-être m'aider. Ou on ne pense pas. Et vos témoignages que vous avez mis sont vraiment quelque chose d'intéressant, parce que ça va ouvrir des portes.
C'est vrai qu'il y a les témoignages de jeunes. Donc, voilà, il y a les lycéens, il y a l'étudiante malvoyante qui... Oui. Voilà, qui aujourd'hui se bat pour poursuivre ses études. J'ai pris, voilà, elle est dans le... Il y a des parents aussi, avec le témoignage du papa des jumeaux est très, très fort, parce qu'il y en a un qui est en échec et il y en a un qui continue à avancer. Il y a une maman qui a une jeune fille autiste sans déficience intellectuelle. Aujourd'hui, moi, j'ai eu des nouvelles. La jeune fille est en terminale, avec des aménagements. Voilà. Et quand on discute avec les familles, le mot qui revient tout le temps, c'est le combat administratif. Voilà. Enfin, le combat avec certains enseignants. Alors, certains enseignants, eh bien, ils sont ouverts à ça. Et puis d'autres, ça freine encore. Alors, si ce livre, il peut être utile aussi aux enseignants pour... Or, faire comprendre ce que ces jeunes lisent. Et puis même pour les camarades de classe, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas des passe-droits.
Tout à fait. Mais on parlait des enseignants. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi les former à accepter justement...
Alors,
c'est peut-être pas forcément de leur faute.
Voilà.
C'est qu'ils ont peut-être pas reçu la formation pour s'ouvrir sur cette chose-là.
Voilà, c'est pas un guide contre l'éducation nationale. D'abord, il y a un ou deux interlocuteurs de l'éducation nationale, mais le problème de la formation des enseignants, enfin moi, il y en a qui me l'ont dit, mais on n'est pas formé. Et quand on veut se former, c'est sur notre temps libre, c'est de manière volontaire. Alors, je crois qu'au niveau des buts de formation, maintenant, je crois qu'ils l'abordent. Les jeunes enseignants sont plus ouverts. Et souvent, ils sont démunis parce qu'ils en ont, à besoins particuliers, ils en ont 3, 4, 5 par classe. Alors, il y a des modèles à l'échelle d'Europe qui sont intéressants. Par exemple, en Italie, le système d'AESH n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Mais quand un enseignant en primaire, quand il y a un ou deux enfants en situation de handicap, il a quelqu'un du secteur médico-social avec lui dans la classe.
D'accord.
C'est des systèmes peut-être à regarder. Voilà, il y a des pays européens qui ont une autre manière d'aborder, notamment au niveau du primaire et du collège.
Ça commence à bouger dans les classes, puisque moi j'ai rencontré des gens qui justement viennent aider un élève qui est en difficulté, qui accompagne un élève dans la classe, un ou des, ça dépend si ce qu'il y a dans la classe, pour justement l'aider à pas se marginaliser par rapport aux autres. Et puis ça, c'est bien.
Il y a le rôle essentiel des AESH.
Voilà, c'est ce que je
dis. Il en manque, elles sont...
C'est souvent des dames.
C'est souvent des femmes à plus de 90%. Elles sont souvent à temps partiel, elles ont plusieurs enfants, la formation à s'occuper, je pense que c'est très très compliqué pour elles, et puis c'est des boulots essentiels, et souvent il y a de plus en plus d'enfants qui sont notifiés, et de plus en plus de jeunes qui n'ont pas l'accompagnement.
Alors, on va faire une petite pause musicale, Christian, s'il vous plaît. Et après, on va se retrouver un petit peu. On a fait à peu près le tour pour ce qui concerne justement les témoignages. Et on va passer aux études supérieures, si vous le voulez bien.
Eh bien, avant d'en parler, nous allons écouter Julien Clerc sur la plage Une enfant.
Sur la plage, une enfant que sa mère amenait avait d'abord surpris par un joli visage, si ingénu, si fin, probablement jamais on avait vu si reposant, si sage. Mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence. Une chose intriguait, sorte d'inélégance, que cet enfant avait, sans le vouloir, la tête un peu penchée sur le cou s'inclinant. La grève en un instant avait paru glacée, et le panorama des sables enlacés, tandis de la mer, je regardais la mer, tandis que de la mer, je regardais la main. Que faisait-elle pencher ou bien la recoiffant? Cette frêle fillette, peut-être de 10 ans, on lui mit un maillot, cela fut difficile. Chaque geste coûtait, chaque avancée fragile. Puis la mère et la fille allèrent près de l'écume, la première entendant mouiller sans trop de peine les pieds de la seconde un peu et une à une. Elle lui baigna les jambes. Dès que je la vis loin, partie dans une vague, debout sur le rivage, je m'armais de courage. Quel sort la frappe? Quel est son nom? Qu'a-t-elle? Quel sort la frappe? Quel est son nom? elle. Jusqu'à ses premiers mois, me répondit la mère. De loin, pareille aux autres, elle était identique. Elle paraissait normale, et puis soudain, dit-elle, chacun s'est rendu compte qu'elle ne mangeait pas seule. Tenue lavée, monsieur, ne le voyez-vous pas? Qu'on lui passe à son pied ce qu'elle ne pourrait pas. Une simple sandale qu'elle ne saurait lasser. Tandis qu'on lui secoue le sable qu'elle avale. Je suis rentré nerveux, inconsolé, rageur. Ne sachant le pourquoi de cette iniquité. Inquiet. Je l'ai guettée, cette lointaine amie. Inquiet, je l'ai guettée, cette lointaine amie. Car je me sens moi-même aussi vite affolée, prêt à pleurer, perdu, aussi mal aguerri, hanté par tant de choses, peut-être similaires. Hanté par tant de choses, peut-être similaires. Sur la plage, une enfant que sa mère amenait.
Alors, nous allons continuer un petit peu avec le handicap et inscription. On avance un petit peu dans le temps. Or, Parcoursup. Alors, il y a des choses qui sont à noter que je trouve importantes que vous avez mis. Aucun établissement ne peut refuser votre inscription en formation parce que vous êtes en situation de handicap.
Oui, c'est une discrimination, sinon.
Voilà.
C'est puni par la loi.
Donc, c'est justement, vous mettez les références. Alors, handicap et inscription. Alors, hors Parcoursup, vous allez peut-être pouvoir nous développer cela. Et alors, moi, je vais un petit peu vous amener sur aménager ses études supérieures pour réussir.
Deux choses à préciser, les effectifs étudiants, c'est 2% des étudiants sont en situation de handicap. Et ce qu'on observe au niveau national, c'est en fait que l'égalité d'accès, elle n'est pas toujours garantie. Ce n'est pas égal en fonction des établissements. Je pense que c'est intéressant à signaler. Alors, on peut aborder Parcoursup, puisque mm-hmm. une fois qu'on est au lycée, tout le monde... chaque lycéen qui veut engager des études supérieures aujourd'hui est obligé d'y passer par là. Donc, dans Parcoursup, peut-être préciser qu'il y a une fiche de liaison pour l'établissement, pour les enfants en situation de handicap. Et il y a même une majoration. Mais elle n'intervient qu'une fois que l'établissement d'enseignement supérieur a validé.
A validé, d'accord.
A validé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fiche de liaison. Et il y a des possibilités hors Parcoursup. Donc là, en fait, une des clés, il y a une obligation pour tout établissement d'enseignement supérieur d'avoir un référent handicap aujourd'hui. Ils l'ont à peu près tous, soit un chargé de mission. Donc c'est de le contacter dès la fin de terminale, le plus en amont possible, voilà. Pour comment seront mis en place les aménagements. Ça, c'est très important de prendre contact avec ce référent handicap très tôt, avant les résultats du bac. C'est même conseillé dans le courant de l'année de première. Mmh. Voilà. Après, ça peut être une formation agricole aussi, parce qu'il y a le ministre. Mmh. Voilà, il y a aussi des établissements d'enseignement supérieur qui dépendent du ministère de l'agriculture. C'est pareil, en fait.
C'est
une des règles qu'il faut retenir, c'est vraiment l'anticipation pour monter ces dossiers d'aménagement.
D'accord, c'est ce que vous dites, oui. Vous lui dites, attention, il faut aller en amont, toujours en amont. Ouais. Si vous êtes intéressé par une formation, pensez à contacter en amont de votre inscription le ministère concerné.
Voilà.
Ça évite les lenteurs peut-être administratives.
Et aussi. Le référent handicap, c'est normal. Toutes les universités en ont aujourd'hui. Et beaucoup, beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur.
Alors, il existe différents types d'aides. Il y a l'aide pédagogique, c'est-à-dire elles sont du ressort des établissements d'enseignement supérieur. Il est fortement conseillé de contacter le référent handicap, ce que vous venez de nous développer, ou le service dédié à la structure souhaitée, en participant par exemple aux portes ouvertes dès la terminale, voire dès la première. Ils vous renseigneront sur les différents aménagements possibles. Ça, c'est pour le côté pédagogique. Et puis, il y a une aide, les aides à la vie quotidienne. Elles concernent le logement, la restauration, le transport et la bourse. Elle relève du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales, le CROUS, de la Maison du Département des Personnes Handicapées, la MDPH. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des petites choses à ajouter, eh ben, pour renseigner, justement, pour aménager ces études, il y a aussi différentes mesures de compensation. Est-ce que vous voulez en parler ou ce que...
Alors, on peut donner quelques exemples. Alors, les aménagements pédagogiques, alors, souvent, ça peut être les mêmes que celles obtenues au lycée.
Au lycée, d'accord.
Voilà. Et pour les élèves qui avaient déjà un PPS, alors c'est un plan personnalisé de scolarisation, souvent, elles peuvent être reconduites, mais c'est le référent handicap de l'université ou le service dédié qui monte ce parcours handicap. Et c'est un parcours à la carte. Il y a le témoignage dans le livre de la responsable du service de Bordeaux. Alors, eux, ils ont élargi aux étudiants élus, artistes et sportifs de haut niveau et situation de handicap. En fait, c'est des étudiants qui ont besoin d'aménagement de parcours. Et ils montent. La dame explique dans son témoignage que le parcours est à la carte. Alors, il peut avoir un exemple concret. Sur certaines formations sélectives, ils peuvent faire le diplôme en un semestre complémentaire. Ils peuvent avoir un tiers-temps aux examens ou sur les devoirs. Voilà, plusieurs outils. Avoir un étudiant scripteur, c'est-à-dire que c'est un étudiant d'une ou deux années qui est embauché pour être le scripteur de l'étudiant qui va être en première année. Et ça va être un étudiant de troisième ou de quatrième année qui va aider son congénère de première année. Ça, c'est un type d'aide. Et puis effectivement, comme vous le soulignez, il y a les aides à la vie quotidienne. Alors ça peut être un étudiant qui ne peut pas se déplacer tout seul, qui ne peut pas prendre les transports en commun. Il peut solliciter une aide au transport. Une aide au logement. Un étudiant qui est en fauteuil, en chambre universitaire. Il y a quelques logements adaptés, réservés aux personnes en fauteuil roulant, par exemple. Parce qu'il y a aussi ce type d'handicap-là qui peut se produire. Après, je l'évoque dans la troisième partie du livre, il y a des associations qui donnent des bourses spécifiques.
Oui, on le verra en dernière, le côté aide financière, on va en parler pour finir. Est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près... Il y a tellement de choses à dire, que d'où l'utilité justement, parce qu'après on va rentrer dans Erasmus, tout ça. Donc ça serait bien que vous reveniez nous en parler pour nos auditeurs. Occasionnellement.
Il y a quelque chose que j'ai oublié, il y a une forme d'aide qui est très très développée, c'est le tutorat.
Ah oui, vous en parlez dans votre livre, effectivement. Oui, vous en parlez. Et est-ce que vous avez d'autres petites choses à nous dire sur justement les aménagements des études supérieures? On a fait à peu près le tour comme conseil?
Oui, parce qu'on a abordé les aides pédagogiques qui sont détaillées dans le guide. Les aides pour faciliter la vie quotidienne de l'étudiant.
Le tutorat, ça, c'est les exemples d'aides pédagogiques. Tutorat est un type d'accompagnant visant à développer l'apprentissage et l'autonomie et l'acquisition méthodes.
C'est très développé. Il y a l'étudiante malvoyante qui témoigne aussi. Voilà, ça peut être l'aménagement de l'adaptation de documents, le gros caractère aussi.
Le gros caractère.
Là, on est sur le volet plus pédagogique aussi.
La mise en braille aussi, ça c'est voilà. Fait. La synthèse vocale permettant d'oraliser un document écrit. Voilà. Et la reconnaissance vocale permettant inversement de restituer un document oral sous forme écrite.
Après,
ça, ce sont les aides qui sont offertes.
Ce qu'on peut rajouter, c'est que les étudiants en situation de handicap, ils ont aussi droit à des loisirs. Mmh. Donc, voilà, une pratique sportive peut être favorisée, adaptée. Mmh. C'est intéressant à signaler, parce que voilà, il y a aussi améliorer leurs conditions de vie.
Les activités physiques et sportives organisent des activités sportives destinées aux étudiants handicapés, variables selon le handicap et l'accessibilité aux équipements. Alors nous allons faire une petite pause musicale si vous voulez bien, puis après on va partir dans la partie financière parce que ça pose aussi peut-être des problèmes, des questions à des gens qui sont concernés. On va se tourner vers Christian.
Eh bien on poursuit avec Sixième Sens de Grand Corps Malade.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Vous êtes bien sûr Liberté FM, vous écoutez les Sentiers Bucoliques de Natacha. Aujourd'hui, nous parlons d'études supérieures et de handicap. Et nous avons déjà vu un certain nombre de points. Alors, nous avons évoqué les difficultés peut-être, Parcoursup, etc., le cheminement au niveau des études supérieures. Mais qu'en est-il si un étudiant en situation de handicap souhaite aller à l'étranger pour poursuivre ses études dans le dispositif Erasmus? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques aussi?
Alors, il a tout à fait le droit, s'il a envie de faire un mois ou 6 mois à l'étranger ou un semestre, de participer au programme Erasmus. Mmh. Alors, la bourse Erasmus va être majorée pour lui, il peut avoir aussi des aides. Mais le dossier se monte auprès de son établissement scolaire et universitaire, puisque Erasmus est ouvert depuis la seconde aujourd'hui, jusqu'au milieu professionnel. Et son établissement, lycée ou d'enseignement supérieur, doit lui aider à monter le dossier. Et Erasmus France accompagne. Et Erasmus France est basé à Bordeaux.
D'accord. Donc, okay.
Et il y a un témoignage dans le guide d'une jeune lycéenne qui est partie en Erasmus un mois. Et ses parents avaient très peur et ça s'est très, très, très bien passé. Et elle le recommande à tout le monde.
Dans les témoignages du livre.
Du livre, oui.
Ils sont importants, très importants vos témoignages, parce que ça nous met en condition de voir ce qui se passe vraiment. Parce que les choses techniques sont bien, mais le vécu est mieux.
Oui, ils sont importants. Et puis vraiment, le message à retenir, c'est, je le dis souvent, ce guide, il doit permettre aux familles et aux jeunes concernés d'ouvrir le champ des possibles en fonction de leurs souhaits. Voilà. Plein de choses qui sont possibles. Les témoignages, alors souvent c'est une lutte pour y arriver, une lutte administrative souvent, et puis un peu de résilience aussi, mais voilà, il n'y a pas assez de jeunes en situation de handicap qui accèdent au doctorat aujourd'hui, alors que oui, moi je dis c'est possible.
Donc vous avez un vécu chez vous qui vous permet de le dire.
J'ai un de mes garçons en BTS, donc on verra. Et puis, le deuxième, il ambitionne des hautes études et il me dit toujours, au bon moment, je ferai mentir l'éducation nationale, je veux faire... Voilà, il sait... Bon, après, il a quand même quelques plans B, mais il veut tout faire, tout mettre en œuvre pour essayer au moins essayer, quoi. Et lever tous les obstacles, mais il est en bonne voie.
Bien.
Alors, on est en plein vote du budget au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il des aides pour ces jeunes en situation de handicap ? Tout le monde parle de resserrer les budgets. Est-ce que ce budget-là est également concerné ?
Alors, pour l'instant, les aides type allocation d'éducation, enfin, handicapés ou prestations de compensation du handicap n'ont pas l'air d'être touchées.
D'accord.
Mais on peut s'inquiéter, à mon avis, l'inquiétude est sur les... Parce qu'il y a plein d'associations qui aident. Mmh. Voilà, on peut s'interroger sur le financement de certaines associations qui aident ces jeunes, dont certaines témoignent dans le guide. Voilà, moi je pense que c'est surtout sur peut-être le budget de ces associations qui pourraient être menacées. Je ne crois pas une menace sur la prestation de compensation du handicap.
On peut peut-être donner le montant actuel, son montant de la H est de 1033,32. Ouais. Depuis le 1er avril 25.
Pour une personne seule, oui.
Pour une personne seule, mais quand même, il y a des opportunités, il y a des bourses. Il faut bien se renseigner, il faut faire des demandes, il ne faut pas hésiter pour se faire aider.
Oui, il y a les bourses aux critères sociaux, les bourses CROUS, en fonction des revenus, qui peuvent être majorées pour ces enfants-là. Il y a des majorations.
Voilà, je crois qu'on a fait à peu près... Il y a l'aide spécifique ponctuelle pour un étudiant aussi en difficulté. Il y a plein de choses intéressantes dans votre livre. Je crois que, Christian, on a fait le tour. Est-ce que vous voulez bien, pour se quitter, donner toutes les références, comment les gens peuvent vous contacter s'ils sont intéressés et comment,
je pense que vous avez des sites. Je pense que le plus simple, c'est de contacter l'éditeur sur librairie.studirama.com. Puisque ce guide, quand même, il faut le rappeler, a été voulu et souhaité par une maison d'édition nationale qui sont les éditions Studirama, qui sont quand même spécialisées dans l'enseignement supérieur et sur les concours. Le contact que je donnerai, c'est le contact du site de Studirama.
Alors, si vous voulez bien nous le rappeler.
Alors,
oui, parce que les gens aient le temps de le noter.
Alors, librairie.studirama.com, c'est le site, et une adresse mail, info@studirama.com.
Alors, Sidirama, on va l'appeler parce qu'il y a un Y.
Oui. Mm. Alors, librairie.s, après Studirama, studyrama.com.
Merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter bonne route et puis si vous avez d'autres choses à venir à nous dire, ne vous gênez pas. La
Merci.
Porte est grande ouverte.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Christian.
Je vous en prie.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau.